moment où j'ai commencé à véritablement écrire ou publier des textes, dans 67, 68, 66, même au tout début, je pense que par rapport, c'est très très prétentieux, mais je pense que c'était très fort aussi, il n'y avait pas, à ce moment-là, en France, de gens, parmi ceux que je voyais, du moins que je lisais, de personnes, historiens d'art ou critiques d'art, intéressés ou même capables de parler de ce que j'essayais de faire. Et donc, effectivement, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. J'ai essayé de parler de ce que je faisais ou de ce que je voulais faire.
Merci de nous rejoindre sur France Culture, toujours en direct de la Fondation Louis Vuitton avec l'artiste plasticien Bertrand Lavier, qui était avec nous dans la première partie de l'émission. L'art produit-il un discours ou est-ce le discours qui produit l'œuvre? On va en parler avec nos invités. Des idées, elles en ont et elles sont là pour vous en donner. Suzanne Paget, directrice artistique de la Fondation Vuitton, après avoir dirigé le musée d'art moderne de Paris. Par cette exposition, elle dit avoir voulu montrer des œuvres qui font figure de pivot dans l'histoire de l'art moderne, mais aussi de montrer comment le MoMA est soucieux de faire bouger les lignes. Ici, à la Fondation Louis Vuitton, l'art contemporain est à l'honneur, mais avec des filiations revendiquées avec l'art moderne. Suzanne Paget, bonjour. Merci d'être avec nous. À vos côtés, la philosophe Sally Beaune, maître de conférences en esthétique à l'Université d'Amiens, directrice de la nouvelle collection d'écrits d'artistes, Les Indisciplinés, aux éditions Makula. Vous venez de signer au Seuil un essai, Les mots et les œuvres, qui va nous permettre d'ouvrir cette réflexion. C'est un essai qui repart sur ce moment dans l'histoire de l'art où les artistes se sont réappropriés la parole sur leurs œuvres à partir du travail de trois artistes, Daniel Buren, qu'on entendait à l'instant, mais aussi Pistoletto et Maurice. Une écriture pour chacun adossée à leur pratique artistique. Trois expériences, pourrait-on dire tout de suite, Sally Beaune, différentes du texte comme part de l'œuvre ou comme prolongement, en quelques mots. Qu'est-ce qui les différencie? Bonjour.
Ce qui les différencie, c'est... Ce sont des pratiques d'écriture qui sont différentes, mais en même temps qui toutes s'adossent et s'accompagnent d'une pratique plastique constante. Et ce qui m'intéressait, c'est de faire apparaître en fait leur rapport, à la fois du rapport du texte à l'œuvre, mais aussi comment ce rapport s'inscrit aussi dans un champ qui est le champ de la critique, notamment la critique institutionnelle, dans cette période des années 60 qui est extrêmement dense, conflictuelle, en même temps très... mouvante, très riche aussi intellectuellement, et comment chacun en fait s'approprie le discours à travers la pratique d'écriture et à travers le texte et dans ses différents usages, pour s'inscrire en fait dans le champ de l'espace de la pensée et de la réflexion, et aussi pour dire quelque chose du travail qui est dans son processus d'élaboration.
Suzanne Paget, dans une exposition comme celle-ci, Être moderne, le MoMA à Paris, qu'est-ce que le texte apporte à l'œuvre?
Non, le texte est fondamental déjà à l'exposition parce que le public a besoin de mots pour voir les choses. C'est la base de toute communication en matière de musée. Ceci dit, là où j'ai un point de vue peut-être un peu différent, je pense que le discours de l'artiste, il est dans son œuvre et je pense qu'il dit autre chose qu'un discours aussi savant et aussi éclairant soit-il être, puisse-il être d'ordre théorique. Pour moi, le discours de l'artiste, il est d'abord un discours sensible et il a son propre vocabulaire et aussi une potentialité que n'ont pas toujours les mots, sauf ceux des poètes dont j'aime beaucoup accompagner la lecture. En regardant les œuvres d'art.
Bertrand Lavier, vous, que faites-vous de cette association entre les mots et votre œuvre, puisqu'on parle de l'artiste? Vous avez dit faire de l'art, c'est un jeu de l'esprit.
C'est un jeu de l'esprit, c'est de la pensée visuelle, mais visuelle. Je suis l'artiste idéal pour ce genre de colloque, parce que je n'ai pas écrit un mot sur mes œuvres, et donc j'en parle d'autant plus savamment. Je pense que évidemment il y a deux niveaux, il y a deux étages dans la fusée de l'écrit. Il y a à la fois les écrits théoriques que font les artistes et puis les écrits critiques sur l'œuvre de l'artiste qui sont en général faits par des critiques d'art, des historiens. Ce sont deux niveaux de textes très différents. Alors on aurait tendance à penser que si on est obligé d'écrire sur l'œuvre qu'on vient de créer, il y aurait peut-être un petit degré d'infirmité à l'œuvre qui aurait besoin d'une petite béquille linguistique pour être parfaitement communicable. Je ne partage pas complètement ce point de vue, mais enfin, on peut peut-être se poser un tout petit peu la question. Moi, j'ai un point de vue plus animal, je dirais, sur la création.
Sauf à considérer cette béquille comme un prolongement de l'œuvre Salibone, et c'est ce que certains artistes ont choisi de faire pour ne peut-être pas être dépossédés du discours de leur œuvre.
Absolument. En fait, il y a une longue tradition d'écrits d'artistes qui, depuis la Renaissance, était plutôt de l'ordre du traité technique, d'un questionnement sur le quotidien de l'artiste. Et en même temps, il y a cette spécificité des écrits d'artistes des années 60 qui était une manière, dans cette période-là où il s'agissait quand même d'élargir le champ visuel, d'élargir les conditions d'expérience de l'œuvre, d'élargir aussi les termes du discours, en fait, de prendre en charge et de prendre la parole et aussi de la reprendre aussi aux critiques d'art, puisque certains, et notamment Buren, considèrent que le critique peut parfois dire n'importe quoi sur l'œuvre. Et donc c'était aussi à la fois pour remettre en cause cette illusion et ce problème pour certains artistes d'être considérés comme mutiques et comme ne s'exprimant que dans l'espace de la pratique plastique. Donc c'était aussi une manière de dire... comme le disait Duchamp d'ailleurs, ou de contredire Duchamp, pas con comme un peintre, mais plutôt de prendre en charge justement cette dimension qui peut être théorique, qui peut être critique, puisqu'il s'agissait aussi parfois de s'adresser directement aux critiques d'art, mais qui peut aussi prendre en charge des questionnements d'ordre philosophique et des problématiques qui sont d'ordre esthétique.
Ce tournant de la contestation dans les années 60-70, dans ce rapport entre le texte et l'œuvre, ce moment de libération, l'exposition Suzanne Paget MoMA à la Fondation Louis Vuitton en rend compte à sa manière. Quand l'art conceptuel gagne le MoMA, il y a cette grande exposition fondatrice, Information, qui est organisée à ce moment-là au MoMA, dont vous parlez dans cette exposition ici à Paris. Et ce qui est rigolo, c'est que Buren et Pistoletto, Salibone, y participent, mais refusent d'alimenter le catalogue de l'exposition, qui est conçu ou perçu par eux comme une espèce d'adjonction nécessaire, voire obligatoire. Ça, c'est un moment fondateur, Salibone. Il y a un avant et un après.
Je ne sais pas si c'est un moment fondateur, mais il se trouve que cette exposition-là, qui était de 1970, dont le commissaire était Keen Aston Wachine, dont vous parliez tout à l'heure, en fait, elle se veut un état des lieux à un moment donné de l'ensemble des pratiques, et notamment dans leur rapport avec l'espace médiatique au sens le plus large et le plus général. Et donc la manière dont certains artistes y participent, la plupart, en fait, jouent justement sur des relations entre le texte et l'image ou entre le texte et les œuvres. Et il se trouve que les réponses que peuvent donner, puisqu'il y a une demande qui est une demande d'information qui est très clairement proposée par Wachine, cette demande d'information, les artistes y répondent d'une certaine manière, en l'occurrence Buren, en refusant de donner une information autre que l'image de son travail, qui est donc dans un rapport de décalage et qui suppose que le seul accès à l'œuvre est un accès direct. Et Pistoletto, qui lui aussi fait une forme de boutade, puisqu'il montre en fait dans le catalogue la reproduction d'un de ses livres, qui est un livre d'artiste dans lequel il propose en fait les dernières paroles mémorables d'un artiste. Mais il y a aussi Robert Morris qui participe aussi à cette exposition et qui lui aussi, sous forme de boutade, propose un texte qui est un texte qui raconte, qui d'apparence complètement en dehors de son travail, mais qui raconte comment on trie les vaches dans le Kansas d'où il vient.
Bertrand Lavier, c'est des artistes taquins à ce moment-là. C'est une forme de rébellion quand même. C'est oui, une manière aussi de dire on veut se réapproprier le discours de notre œuvre en ne la commentant pas.
Alors, il y a beaucoup de naïveté dans tout ça, mais heureusement. Et je pense que
Pourquoi de vouloir
se rebeller, par exemple, sur le fait qu'on puisse écrire n'importe quoi sur une œuvre, je pense que c'est une aubaine, c'est un domaine justement où on peut écrire n'importe quoi sur une œuvre et qu'elle continue à avoir sa vie propre. Ça, je trouve que c'est une chance formidable. Il n'y a pas tellement de domaines dans lesquels on puisse se permettre d'écrire n'importe quoi et qui puisse quand même avoir de la pérennité. Et sur un autre plan, il n'est pas obligatoire d'écrire pour ne pas avoir l'air bête. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que bête quand même, prendre la plume n'est pas un sauf-conduit pour avoir une légitimité.
Suzanne Paget.
Oui, pour reprendre le cas Buren, j'aime beaucoup sa réflexion, comme quoi l'image suffisait, que c'était un discours en soi, j'en suis convaincue. Il a fait une participation très importante ici, il y a quelques mois, et il a désigné quelque chose qui existait et qui nous a rendu visible. Je ne pense pas qu'un discours aurait pu dire ce qu'a dit cette œuvre avec évidence. C'est-à-dire, il est parti de ce qui existait. J'allais dire, c'était un peu étant donné un bâtiment extraordinaire avec ses verrières très spécifiques et les données implicites de bâtiment qui n'étaient peut-être pas toujours surlignées. Sont la transparence, l'effet de miroir l'invention au sens propre de la lumière. Il a travaillé là-dessus et seulement là-dessus, en n'ajoutant rien, aucun discours. Son discours, il était purement visuel, c'est-à-dire il a posé des films de couleurs, plus ses bandes, et tout d'un coup, ce qui était tout à fait explicite, c'était l'existence de ces verrières, qui accentuait l'élan du bâtiment et les données propres, le discours propre qui est encore une fois visuel de l'architecte au départ. Donc il me semble, je fais partie de tous ces gens qui lisent les théories, etc. Pour moi, la clé, elle est dans l'œuvre, elle n'est pas préalable à celle qu'on voit là. Et à chaque fois, l'œuvre réinvente sa propre clé théorique ou d'abord, comme le disait Bertrand, c'est de la pensée visuelle.
La clé est dans l'œuvre et en même temps, vous l'évoquiez, votre rôle, votre mission comme fondation, comme responsable de musée, c'est aussi de jouer un rôle de médiateur, un rôle de passeur avec le public qui ne perçoit peut-être pas aussi vite et autant de choses que vous dans une œuvre, d'autant que vous êtes en dialogue direct avec les artistes, ce qui n'est pas le cas du public. Donc comment faire la part des choses?
Très modeste, juste milieu très modeste et très juste. Essayez d'être très modeste, c'est très difficile de dire une chose complexe dans un texte accessible à tout le monde. Il est absolument indispensable. Ceci dit, sans, dans une parfaite économie, en s'en tenant à ce qui est là, aux données.
Mais vous allez demander du coup le concours des artistes pour les catalogues, par exemple, ou est-ce que vous...
Très souvent, bien sûr. Je n'écris pas un texte sur un artiste sans lui demander s'il est d'accord. Bien sûr. Bon, mais ce qui fait dialogue, ce qui fait surtout théorie, etc., ou lecture de l'œuvre, c'est l'œuvre.
On est coincé quand même quand on est artiste dans ces situations-là, parce que soit on accepte de commenter son œuvre. Oui. Et on se retrouve dans cette position que vous estimiez désagréable, Bertrand Lavier. Mon œuvre parle d'elle-même, elle est visible dans ce qu'elle veut représenter. Ou alors on accepte que d'autres commentent votre œuvre ou tentent de l'expliquer ou de l'interpréter. Et là, ça met peut-être l'artiste dans une position où il va voir la vérité de son œuvre travestie par le discours d'un critique, d'un historien d'art. Sally Bonne, par ses textes, Buren a justement voulu se réapproprier un discours sur son œuvre, dont il s'était senti dépossédé par ces nouveaux acteurs du monde de l'art à l'époque, au premier rang duquel les critiques, les historiens, qui, selon lui, monopolisaient d'une certaine manière l'attention au détriment de l'artiste, hein, quand il n'instrumentalisait pas son propos. Et ils se sont dit, ces artistes, à un moment, plutôt que de refuser de commenter ou de voir son œuvre commentée, ils voulaient arrêter qu'on fige leur œuvre. C'est intéressant aussi cette idée de l'art en mouvement, Bertrand Lavier, oui. Qui se fige par le commentaire.
Absolument. Alors, juste, moi, je voudrais quand même replacer cette question du rapport au texte dans un contexte spécifique qui est celui des années 60. D'une part, évidemment, tous les artistes n'écrivent pas et c'est pas important, c'est pas grave. C'est-à-dire, il y a des œuvres qui sont pas du tout entourées ou accompagnées d'une pratique d'écriture et qui sont absolument essentielles dans toute l'histoire de l'art et aujourd'hui encore. Seulement, moi, ce qui m'a importé en fait dans ce livre-là, c'était de montrer que la présence du texte de la part de ces artistes qui, en tout cas, c'est le cas de Buren, qui a quand même un volume et une quantité de texte qui est considérable. C'est le cas aussi pour Robert Murray, c'est le cas aussi pour Michelangelo Pistoletto, mais pour bien d'autres artistes de cette période-là. Cette présence du texte-là, ça me semblait pas possible de ne pas la prendre en compte dans l'accès aux œuvres, puisque ce qui est en jeu et en question dans ces textes-là, c'est justement la manière dont ils donnent à voir les œuvres elles-mêmes. Ça n'empêche pas, et c'est d'ailleurs exactement ce que Buren dit, ça n'empêche pas d'avoir un accès direct Et il va même jusqu'à dire, on peut voir les œuvres sans lire les textes, on lit pas les textes sans voir les œuvres. Donc ce rapport-là à l'œuvre, il est évidemment essentiel. La première question que vous m'aviez posée, c'était sur le rapport en fait entre ces trois artistes. L'un des rapports aussi, c'était que tous les trois, en fait, inscrivent leur travail dans un rapport à l'expérience physique, perceptive, qui est aussi absolument essentielle. Et donc, ce qui m'intéressait, moi, c'était de montrer comment on peut à la fois faire l'expérience des œuvres de manière directe, physique, corporelle, perceptive, et en même temps aussi d'être dans une espèce d'ambiguïté, puisque le rapport au texte et le passage par le texte est aussi une autre forme d'expérience. Donc c'était la confrontation entre une expérience perceptive et une expérience cognitive, et comment toutes les deux finalement ne s'excluaient pas et n'empêchaient pas en fait véritablement une expérience de l'œuvre.
Bertrand Lavier, quand vous publiez Random en 2002, ce qui est plutôt un journal de bord, vous dites « je n'ai jamais rien écrit », mais là, en l'espèce, vous écrivez, vous ne commentez peut-être pas directement vos œuvres, mais vous parlez de votre pratique artistique aussi, de votre processus de création. Donc, quelle place va avoir cet écrit, ce journal de bord, dans votre rapport à vos œuvres ?
C'est un petit peu, on pourrait voir ça un peu comme des haïkus. Ce sont des extraits d'interviews, de conversations. Et je crois que par rapport à ce qu'on évoque là sur l'écrit, la parole a symétriquement autant d'importance. C'est-à-dire que je trouve que dans l'art qu'on dit contemporain, la tradition orale, la pratique orale est très très importante. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup des expositions, des œuvres entre nous, au sens très large, et ça les fait vivre d'une autre manière. Et donc on parle très simplement d'une exposition qu'on a vue, elle est commentée, etc. Et alors, je crois qu'effectivement, l'écrit aujourd'hui, alors comme vous dites, il faut contextualiser, aujourd'hui on vit une période de disette, paradoxalement, vis-à-vis de l'écrit, parce que je dirais que, pratiquement, si j'exagère un peu, je force le trait, mais l'alpha et l'oméga de la critique d'art aujourd'hui, ce serait Instagram. Et donc, Instagram, c'est une photo et 25 likes, en disant, voilà, j'ai aimé ça. Et donc, les gens ont tendance à se contenter de cette sélection qui est faite par Instagram. Donc, je veux dire, par esprit de pendulaire, l'écrit va retrouver une vivacité que je pense qu'il avait un peu perdue. Là, vous étiez dans les années 60. Là, on est en 2017. Ça ne s'est pas arrangé, justement, non, sur ce plan-là.
Pour tous ceux qui n'ont pas de téléphone intelligent, oui. Instagram, c'est une application, oui. Et c'est par l'image que l'œuvre se raconte, et non plus par le texte. Vous étiez encore plus sévère dans votre masterclass sur France Culture, entendu cet été, Bertrand Lavier, à ce sujet. Vous donniez votre vision de la critique d'art aujourd'hui, et vous disiez, la critique d'art est en péril, elle est remplacée par Instagram, c'est un appauvrissement général, c'est un moment à passer, la réception critique est dans une zone d'ombre.
Je vous dirais la même chose à l'automne.
Parce que donc oui. Vous ne remettez pas de clarté.
Non,
la critique d'art est elle-même en train de se laisser déposséder son rôle.
C'est-à-dire que c'est pas tellement la capacité de réflexion de la critique. Il y a toujours des gens, des femmes et des hommes qui réfléchissent et qui écrivent ça. C'est surtout l'espace qui leur manque. L'espace de la critique est devenu une chose de plus en plus rétrécie. Si vous regardez au sens très large la presse, qu'elle soit visuelle, télévisuelle ou écrite, ou sur les tablettes, la portion qui est laissée à la critique d'art stricto sensu est de plus en plus réduite. Et donc c'est sur ce plan-là, je pense que c'est pas sur le plan de la capacité à réfléchir ou à écrire, c'est sur l'espace vital qui s'est un peu réduit.
L'art contemporain naît de la nécessité de documenter les œuvres. Ça, c'est Nathalie Heinic qui nous le rappelle dans son paradigme de l'art contemporain. Elle insiste aussi sur la nécessité de médiation. Écoutez.
D'une part, cette transgression des frontières de sens commun entraîne un décalage entre les attentes du grand public et les œuvres proposées. Du même coup, la nécessité de médiation pour combler cette attente et pour faire en sorte que le public ait des prises pour y comprendre quelque chose. D'où l'importance phénoménale prise par tous les intermédiaires de l'art, que ce soit les critiques d'art, les conservateurs, les commissaires, etc. Et d'où également cette importance des discours qui est encore amplifiée par le fait que dès lors que le contexte fait partie de l'œuvre au même titre que l'objet proposé en art contemporain, le discours fait partie du contexte. Et c'est ça qu'évidemment beaucoup de mal à comprendre ceux qui sont dans le paradigme moderne et pour qui l'œuvre c'est simplement l'objet proposé par l'artiste.
Voilà, on entend la sociologue Nathalie Heinic auteur du paradigme de l'art contemporain, apparu chez Gallimard il y a 3 ans, Sally Bone. C'est ça vraiment qui distingue l'art moderne de l'art contemporain, cette nécessité discursive?
Alors, je ne suis pas absolument certaine, dans la mesure, et là je pourrais peut-être citer un exemple qui en plus renvoie aussi à ce qui se passe aujourd'hui ici dans la Fondation Louis Vuitton et de cette exposition. Il se trouve qu'avant de travailler sur les écrits d'artistes des années 60, j'avais travaillé sur les écrits d'un artiste qui s'appelle Barnett Newman et qui est exposé au MoMA et qui avait lui aussi en fait cherché à réinvestir le champ à la fois de la critique d'art et de la théorie de l'art dans un espace qui était un espace de plutôt de l'art moderne. Et donc il y a indéniablement au moment des années 60 une distinction et ce qu'on a appelé à ce moment-là un changement de paradigme, dans la mesure où ce que un philosophe qui s'appelle Arthur Danto avait appelé le tournant linguistique de l'art, donc où toute la question du langage, des mots en fait intervenait dans la pratique, et c'est ce qui a notamment donné par exemple lieu à l'art conceptuel. Et donc ce tournant linguistique de l'art, c'est aussi un surinvestissement de ce qui est de l'ordre du langage, du texte, du concept, de la notion, etc. Donc il y a effectivement quelque chose de cet ordre-là, de ce qui distinguerait l'art moderne de l'art contemporain. C'est pas une frontière absolument étanche non plus.
Suzanne Paget, à partir du moment où on définit l'art contemporain comme un art du récit, voire de la légende, un art du commentaire et de l'interprétation, comme le fait aussi Nathalie Hennick, à partir de là, on peut quand même se demander qui est légitime à produire du discours et comprendre que cette maîtrise du discours sur l'œuvre devient un enjeu essentiel à la fois pour les institutions comme la vôtre que pour les artistes.
Non, mais permettez-moi d'avoir un discours un peu différent parce que je pense que le musée en soi est un livre, mais qui n'obéit pas au même code que le livre et l'écrit. Donc je pense que, par exemple, ici, prenons la dernière, la dernière œuvre de Jeannette Cardiff, qui est une œuvre totalement émotionnelle. Je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin d'un discours. Je l'ai dit et je le répète, je le pense fondamentalement, sans les mots pour voir les choses, donc c'est notre rôle pédagogique élémentaire. On n'a pas accès aux œuvres. Ceci dit, je pense qu'il faut avoir accès au langage propre de l'art, qui pour moi ne relève pas totalement, en tous les cas n'est pas circonscrit par l'écrit. Au contraire, il le déborde. Et c'est un langage, encore une fois, qui est sensible. C'est pas évident, parce qu'on n'a probablement pas les mots pour le dire. D'ailleurs, quand une œuvre arrive, je suis désolée, je crois que elle nous déborde, elle casse toutes les règles, et on n'a pas, si le discours est déjà là, c'est que l'œuvre n'a pas casser ce qui existait. Je pense qu'une œuvre digne de ce nom et qui perdure, c'est une œuvre qui a cassé toutes les règles, y compris les règles du langage.
Mais c'est peut-être ça le problème, c'est que le discours arrive après.
Il arrive toujours après, je pense. C'est un autre. Non, n'oublions pas qu'il y a plusieurs formes de langage. Et je pense que le langage propre aux artistes ne relève pas de la rhétorique de la Sorbonne. C'est autre chose. L'un est indispensable à l'autre, mais il n'est pas circonscrit. Je crois qu'il déborde complètement ça. Et je pense que c'est un langage qui passe par les signes formels qui sont aussi très perceptibles.
Prenons un exemple, Bertrand Lavier. Prenons votre Giulietta.
Oui.
Que n'a-t-on dit, que n'a-t-on écrit sur votre Giulietta, cette carcasse de voiture rouge qui était exposée encore il y a 4 ans lors de la rétrospective que le Centre Pompidou vous consacrait. Alors on a dit quoi? Que ce rouge, c'était à l'image du désir, c'était aussi le rouge du sang. On a fait estimer que vous faisiez référence au mythe moderniste, que la Giulietta, c'était aussi l'impossible amour entre Giulietta et la Roméo, l'Alfa Roméo, puisque c'était une Alfa Roméo, une carcasse d'Alfa Roméo que vous présentez ici avec cette œuvre. On a aussi mobilisé Barthes avec ses mythologies, on a mobilisé et convoqué Saint Thomas et la blessure du Christ, Baudelaire avec cette carcasse superbe de sa charogne, de son poème. Tous ces mots, vous les avez lus, ils ne viennent pas de vous, ces interprétations de votre œuvre, par exemple, de votre Giulietta?
Non, mais vous savez, c'est souvent un peu comme un miroir aux alouettes. Les œuvres d'art, on y met énormément de choses. Chacun y met des choses, d'ailleurs, qu'il ne savait pas qu'il existait. Et puis, je crois qu'il y a une chose aussi intéressante à dire, c'est que les œuvres d'art sont un peu, dans le meilleur des cas, sont comme des sortes de météorites qui arrivent, comme ça, sur la planète, dirons-nous, et que, comme elles arrivent par effraction, elles choquent. Et ça vous laisse toujours un petit peu interdit. Et je pense que même moi qui en suis l'instigateur, je vois beaucoup d'artistes seraient d'accord avec moi, on est soi-même interdit devant les choses qu'on vient de faire quand elles sont totalement nouvelles. Et je crois que ça fait partie du jeu, entre guillemets. Ça doit choquer et donc vous laisser sans voix pendant un certain moment. Et ce que vous disiez tout à l'heure, les choses arrivent et puis on écrit après. Je crois que c'est un processus là sur lequel on peut vraiment se rassembler.
France Culture, il est 13h22.
France Culture, La Grande Table, Olivia Jesbert.
Et nous sommes en direct pour quelques minutes encore de la Fondation Louis Vuitton à Paris à l'occasion de l'ouverture de cette exposition Être moderne, le MoMA à Paris. Nous recevons Suzanne Paget qui est la directrice artistique de la Fondation, mais également la philosophe Sally Bone et l'artiste contemporain, l'artiste plasticien Bertrand Lavier. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h30 sur France Culture et on est très heureux de vous avoir. On va juste écouter les mots d'un acteur et observateur critique du marché de l'art. C'est ceux de Paul Ardenne, historien. Il évoque, lui, la nécessité de contourner parfois pour l'artiste le marché sous peine d'être récupéré.
Personne n'a pris stricto sensu le contrôle de l'artiste. Je dirais que c'est plutôt un certain nombre d'artistes qui ont accepté d'entretenir un rapport avec les structures, en quelque sorte, du monde de l'art contemporain. Donc, entretenir un rapport qui est un rapport de suggestion. On pourrait plutôt parler de servitude consentie, si vous voulez, ou d'alignement sur les grandes idées, les grands propos, les grandes thématiques. Bon, alors, bien évidemment, le problème aujourd'hui des artistes, c'est cette servitude consentie. Pas de tous les artistes, vous en avez qui vivent très bien. Et je voudrais rappeler ce qui se passe aujourd'hui, très intéressant, c'est que par rapport à cette espèce d'énorme monolithe institutionnel, bon, qui contrôle le champ de l'exposition, par exemple, de la construction, de la valeur artistique, de l'édition d'art, etc. Ces grandes institutions sont en France, aux États-Unis, bon, qui sont liées d'ailleurs entre elles, hein, avec des systèmes d'exposition qui circulent, hein, voilà, des systèmes d'itinérance, bon, ce qui crée une sorte d'unification, d'homogénéisation du champ artistique d'une certaine façon et de ses représentations. À côté de ça, aujourd'hui, on voit un élément important, identique à ce qui s'est passé dans les années 80, de plus en plus d'artistes créent des structures artistiques. Par exemple, regardez à Paris, Kader Attia a créé la Colonie, Beatrice Caracciolo a créé la Fontira, hein, c'est tout nouveau, Franck Perrin a créé l'Espace Visconti. Et c'est très intéressant, ce sont des artistes, non pas qui se désintéressent de ce que l'institution artistique, les grands musées, les centres d'art, par exemple, officiels, proposent, mais qui se disent, nous n'avons de toute façon aucun espoir à attendre de ce côté-là.
Est-ce que les grandes institutions, Bertrand Lavier, peuvent encore vous protéger, vous, artistes, protéger votre liberté de création, ou est-ce qu'il faut prendre la poudre d'escampette et tenter d'aller créer d'autres espaces ailleurs? Comment peut se créer un dialogue, une création, en toute liberté, dans cet univers qui est quand même très chargé aujourd'hui?
Écoutez, moi je suis très gâté parce que je me sens d'une liberté totale, mais je suis peut-être totalement inconscient. Je crois que ça dépend vraiment de chacun. Il peut pas y avoir de règles. Chacun réagit en fonction de la lourdeur du marché. Il y a des gens effectivement qui pensent que le marché est accablant. On peut les comprendre. D'autres artistes sont. Je pense que c'est vraiment la manière dont on traverse tout ça. Il faut trouver sa longueur d'onde. Ça prend du temps. Il faut aller vite et ne pas être pressé. Donc, vous voyez que tout ça, c'est très, très compliqué. Et je pense que j'aurais du mal, moi, à vous dire, effectivement, il faut se rebeller, parce que les rébellions, moi, qui suis d'un grand âge, j'en ai vu un certain nombre dans mon petit monde de l'art, j'ai vu à quelle vitesse toutes ces rébellions sont récupérées par ce fameux marché, et ça ne m'impressionne pas davantage. Ça ne doit pas vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Et je pense qu'effectivement, le mot de liberté me semble le plus... c'est celui-là qu'on doit asséner avec la plus grande force possible. Et moi, je me sens totalement étanche par rapport à toutes ces questions-là, en réalité.
Suzanne Paget, l'artiste décideur ou artiste outil du marché, c'est un bien gros mot, direz-vous peut-être, à l'attention de Paul Ardenne.
Nous ne sommes pas ici du tout considérés, concernés par l'histoire du marché, puisque nous sommes un musée que quand l'œuvre rentre dans la collection, elle devient seulement un objet culturel. Non, je pense qu'il y a d'ailleurs dans le marché de très bons artistes. Il y en a énormément qui ne sont pas dans le marché, qui sont d'excellents artistes. Mais je pense que l'artiste, c'est lui au fond. Moi, notre fonctionnement ici. L'artiste décide de tout. Et si on fait l'analyse de ce qui se passe dans cette exposition du MoMA, on se rend compte que ce sont les artistes qui ont procédé à l'encadrement du MoMA depuis le départ. On ne dit pas assez, parce qu'on situe le MoMA, qui était en effet notre référence absolue, qui était devenue quasi universelle, dans un rapport institutionnel. L'institution n'existait pas. Par contre, Barre, comme d'ailleurs un autre grand monsieur de l'art qui était Pontius Sultan à Paris, ont été tous les deux formés par le Bauhaus. Et qu'est-ce que c'est que le Bauhaus ? C'était des artistes qui mettaient à parité la peinture, la sculpture, les arts graphiques et la céramique. C'est-à-dire qu'au fond, si on veut être un bon professionnel, et évidemment on cherche tous à l'être, on écoute d'abord les artistes, et je pense que ce sont les artistes qui dictent leur vision, j'aime beaucoup ce mot, leur vision à un musée, quel qu'il soit, un musée d'art moderne.
Sally Bonne, on terminera avec vous aujourd'hui. Qui est artiste, qui est interprète, qui a la légitimité de parler des œuvres? Est-ce l'artiste seulement? Est-ce aussi l'institution qui joue ce rôle de médiateur et présente et fait remplit cette mission de passeur d'art? Ou est-ce pas aussi le spectateur, le public qui vient les regarder? Ce sont les regardeurs qui font les tableaux, disait Duchamp. Donc c'est une coproduction. Tout le monde est co-auteur dans l'affaire?
Co-auteur, sans doute pas, mais indéniablement, l'artiste est celui qui est premier et dernier dans cette relation qu'on peut avoir en général avec les œuvres. Le critique, il peut être le passeur d'une compréhension de l'œuvre. La question du discours de l'artiste lui-même, elle me semble aussi absolument essentielle dans le rapport qu'on peut avoir avec l'expérience et la vision des œuvres, et notamment parce que elle vient ramener en fait la question du discours, d'un discours extérieur, en fait, au cœur même de la pratique elle-même. Et c'était ça qui me semblait essentiel, justement, dans l'importance que peut revêtir ces écrits d'artiste, c'est que c'est la parole de l'artiste, et que cette parole de l'artiste, c'est elle qui donne accès aussi à l'œuvre et qui est première.
Sally Bonne, auteur de Les mots et les œuvres qui vient de paraître au Seuil. Merci beaucoup. Merci mille fois à vous, Suzanne Paget, directrice artistique de la Fondation Vuitton, qui accueille donc cette exposition Être moderne, le MoMA à Paris. Elle ouvre ses portes aujourd'hui et vous avez le temps de venir la voir. C'est important. Merci beaucoup à vous, Bertrand Lavier, d'avoir été le fil conducteur de ces deux demi-heures, de cette grande table. On peut vous voir actuellement à la galerie Créo, une galerie de design rue Dauphine à Paris, qui présente vos œuvres. Merci beaucoup à toute l'équipe de la Grande Table, Claire Maillot, Clémence Marie, Henri Leblanc, Chloé Leblond, avec l'aide très précieuse de Bertie Bourdon et de Maxime Morin. Merci aussi aux équipes techniques de Radio France qui ont installé ce studio ici, dans le grand hall de la Fondation Vuitton, Loïc Dureau, Gilles Manet, Sandrine Malon et Dominique Allard, chargée de production. Merci enfin à Perret Legras qui a réalisé cette émission. Je vous souhaite une très belle après-midi à tous.